Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Australie, la maison brûle, et alors? La pluie vient de tomber sur l'Australie et facilite le travail des pompiers qui ont été mis à rude épreuve depuis maintenant plus d'un mois. Mais l'été austral n'est pas fini et tous les observateurs notent que ces grands feux peuvent redémarrer à tout moment. Au-delà de la catastrophe pour la faune et la flore, cette catastrophe interroge chacun d'entre nous sur la multiplication de ces méga-feux que l'on a connus auparavant en Californie, en Amazonie, en Suède ou encore en Sibérie. Mais ils nous obligent surtout, ces méga-feux, à penser la planète dans sa globalité et à faire nôtre ce qui se passe aujourd'hui à l'autre bout du monde. Nous en parlons avec Joëlle Zask, elle est philosophe, enseignante à l'université d'Aix-Marseille, autrice de « Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique » qui est sortie au mois d'août dernier aux éditions Premier Parallèle. David Camerou est avec nous, il est politologue franco-australien, il est chercheur honoraire aux séries Sciences Po, et Yann Robillaud-Dupont est chercheur climat à l'IDRI, et il est auteur d'une thèse sur cette question de le réchauffement climatique. On en parlera avec lui depuis la Norvège où il se trouve. Un écho de l'ambiance des manifestations qui étaient organisées il y a une semaine à Sydney, donc, et dans les autres grandes villes d'Australie, pour réclamer des actes contre le dérèglement climatique et le départ du Premier ministre Scott Morrison. Bonsoir, Joëlle Zask, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Vous n'attendiez pas sûrement un accueil au moins médiatique comme celui que vous avez reçu depuis maintenant un peu plus de 6 mois en sortant quand la forêt brûle au mois d'août dernier, au moment même où en Amazonie on commence à parler avec Jair Bolsonaro et sa prise de bec avec le président Emmanuel Macron de ce qui se passe justement dans ces méga-feux du côté de l'Amérique latine.
Alors effectivement, il y a comme une accélération du processus. Le méga-feu pouvait être sensible il y a déjà une vingtaine d'années. En tout cas, il y a une bonne dizaine d'années. Et le fait est que c'est peut-être seulement maintenant que quelque chose catalyse dans la tête des gens, mais en même temps sur la planète. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, les feux nous entourent, se rapprochent dans une certaine mesure. Il y a une image qui est très forte, je trouve, c'est celle de cette fumée qui s'échappe des feux australiens et qui aujourd'hui a fait le tour du monde. Les climatologues et les capteurs de la NASA ont enregistré que cette fumée qui était partie d'Australie est revenue à son point de départ après avoir fait tout le tour de la planète. Et je crois que c'est une image qui dit quelque chose du phénomène aujourd'hui. C'est-à-dire que la saison du feu s'étend à toute l'année. Et c'est ça qu'on constate. Et peut-être que les choses vont encore plus vite que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années. Mais en tout cas, elle s'étend sur toute l'année dans la mesure où dès qu'un feu s'éteint, un autre repart. Les Californiens sont tétanisés par ce qui est en train de se passer en Australie. Mais en même temps, aussi bien les forêts boréales que les forêts tropicales sont exposées. Les forêts sèches, les forêts humides. Donc que faire? Voilà, on est vraiment face à un phénomène planétaire qu'on est bien obligé de considérer.
Qu'est-ce qui fait qu'une philosophe comme vous, qui est spécialiste de John Dewey, puisse en être venue à écrire un livre sur les forêts qui brûlent et sur cette catastrophe que nous connaissons pour penser la nouvelle catastrophe écologique? C'est assez, on se dit, ça fait du chemin tout de même. Qu'est-ce qui vous a conduit à cela? Peut-être avant tout le monde, ou en tout cas, bien avant d'autres philosophes en France, en tous les cas.
Oui, alors d'abord une intuition assez forte qui est celle de la manière dont on est exclu d'un paysage qui a brûlé. Je veux dire, le paysage qui a brûlé n'est plus votre paysage, ça n'est plus d'ailleurs un paysage, et je l'ai vécu dans le Var en 2017, et ce sentiment d'être exclu finalement d'une histoire qui était la mienne m'a profondément traumatisée. Et en même temps, dans la mesure où je connais cette forêt, enfin qui n'était pas non plus ma maison, mais qui est une forêt amie et que je connais bien, et c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que les victimes des feux sont des gens qui sont exclus, expropriés, j'ai envie de dire, de leur propre vie, en quelque sorte, qui perdent quelque chose de manière irréversible, qui leur est très cher, mais qu'ils identifient comme cher au moment de leur départ. Donc il y avait ce rapport au paysage qui m'a beaucoup intéressée. En quoi le paysage peut-il être en quelque sorte identifié, redécouvert, tissé dans les méandres de notre existence depuis l'expérience de sa disparition ? d'une part, et puis d'autre part, du coup, ça faisait système avec l'affaire des feux, parce que j'ai eu le sentiment, j'habite à Marseille, et il y a des feux extrêmement violents dans la région depuis longtemps maintenant, des collines complètement dénudées, les calanques étaient boisées au 19e siècle, et même au début du 20e siècle, sont complètement dénudées, idem pour toutes sortes de collines qui entourent Marseille, idem en Corse, etc. Donc on a vraiment, on arrive très rapidement à l'idée que les feux n'ont rien de naturel, et qui loin d'être bon pour la nature, serait plutôt mauvais. Et du coup, une question se pose, comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire, quelle est la forme d'exclusion, finalement, vis-à-vis de la civilisation et de la culture, qui rend possible le phénomène du méga-feu?
David Camroux, vous êtes, je l'ai dit, politologue, vous êtes franco-australien, chercheur honoraire au CIRI Sciences Po, et c'est un Australien qui a inventé une expression que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps, qui s'appelle la solastalgie, qui dit justement ce que vient de dire Joël Zaske, c'est-à-dire quand un environnement familier ne vous procure plus de réconfort, eh bien c'est la solastalgie, c'est ce moment où on est nostalgique de ce qui a disparu parce que justement on n'est plus réconforté. Est-ce que vous avez cette impression justement quand vous êtes en communication avec vos amis, votre famille peut-être du côté de l'Australie?
Oui, tout à fait. En fait, je voyais ces images et je voyais les endroits de mon enfance en fait. Batemans Bay, Kangaroo Valley, mes parents avaient une maison secondaire et je vois mon enfance brûler littéralement. Donc oui, effectivement, c'est cette image d'exclusion. Et aussi pour les Australiens, l'Australie est un pays où dans l'imaginaire, c'est la nature. L'Australie, c'est la nature, c'est pas les monuments de l'homme, hein. C'est ce qui est la nature de l'Australie, le plus grand continent, en fait, le cinquième continent du monde, la plus grande île du monde. Et donc, c'est pour ça, quand je parle avec mes amis et ma famille, et je vois un peu leurs réactions, qui sont peut-être dirigées envers un leader politique, mais derrière, il y a une espèce de crise presque, bon, je pèse mes mots, mais existentielle, c'est-à-dire que, c'est quelque chose qui est très grave, en fait, qui est arrivé. Oui. Et c'est pas unique, c'est dans l'ensemble du pays.
Oui, parce que ça touche le sud, comme souvent, la Nouvelle-Galles du Sud, etc. Oui. On a l'habitude de grands feux, mais ça touche aussi le nord, avec les forêts primaires du nord, par exemple.
Voilà, et les forêts du sud ont besoin, en fait, de brûler de temps en temps, parce que c'est la nature des forêts est différente. Mais là, on a des forêts tropicaux qui brûlent, on a des forêts en Australie méridionale, en Australie occidentale. Donc, c'est une mention, disons, nationale. Et je crois que pourquoi ça a pris une telle importance au niveau mondial, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, l'Australie, c'est un pays avec beaucoup de relais. Par exemple, il y a 1 million des habitants qui sont d'origine britannique. Mm-hmm. Donc, chacun a une famille lointaine en Grande-Bretagne. Un pays anglo-saxon, entre guillemets. Mais aussi parce que les catastrophes avant, ça arrive dans les pays pauvres, les catastrophes où l'État n'a pas la capacité de faire face à agir. Et là, nous avons une catastrophe où, dans un pays riche, développé, où l'État se montrait incapable de traiter ce problème. Et c'est ça, je crois, qui fait un peu qu'il y ait une prise de conscience, disons, globale ou mondiale sur ce qui arrive en Australie.
Yann Robillaud-Dupont, vous êtes avec nous depuis la Norvège. Vous vous trouvez, vous entendez?
Oui, je vous entends bien.
Ouais. Vous êtes donc, je rappelle, chercheur climat à l'IDRI. Vous êtes auteur d'une thèse sur la justice climatique. Vous avez vous-même étudié en Australie. Et vous dites qu'il y a certes cette mythologie de la nature qui vient justement d'être annoncée par David Camroux. Mais il y a aussi une autre idéologie, pourrait-on dire. C'est celle du charbon, c'est celle aussi de l'exploitation de cette même nature. Et vous dites que le charbon n'est pas considéré comme sale quand on parle à un Australien ou à beaucoup d'Australiens. Donc il y a aussi une autre vision que celle simplement d'un pays qui serait béni par la nature, mais qui serait aussi un pays qu'on peut exploiter et peut-être encore plus que dans d'autres pays voisins ou même d'autres pays de la planète, parce que bien qu'étant très avancé, l'Australie n'hésite pas à utiliser des ressources justement dans le sous-sol que n'utilisent plus d'autres pays.
Alors c'est vrai que cette vision de la nature que l'Australie a s'accommode aussi des intérêts économiques et pratiques, hein. cette vision culturelle, elle se construit toujours autour, effectivement, d'une expérience de ce qu'il y a autour de soi, mais aussi de ses intérêts. Et c'est dans la culture australienne d'avoir utilisé les ressources minières depuis la création de l'État australien, c'est-à-dire depuis la colonisation. Donc il y a un fort attachement aussi culturel aux valeurs qui sont liées à l'exploitation minière, à l'exploitation de la nature et de la forêt aussi accessoirement.
Ce qui explique l'engagement de l'Australie comme un des plus faibles justement de tous les États qui ont participé à l'accord de Paris, par exemple sur le climat.
Alors c'est vrai que si on regarde les émissions par personne, l'Australie est le plus gros émetteur par personne des pays développés, des pays de l'OCDE, un des plus forts au monde, même plus encore d'émissions que les États-Unis par personne. Et c'est vrai, un historique de participation aux négociations climatiques particulièrement peu constructif et critiqué par beaucoup des États qui négocient, donc du reste de la planète, dont leurs voisins des petites îles du Pacifique qui sont directement menacées dont l'existence même complètement est menacée par le réchauffement climatique et qui sont particulièrement irrités par le manque d'ambition de l'Australie.
Un manque d'ambition qui a fait, au bout du compte, Joël Zask, que ce pays a connu ce qu'on appelait un « angry summer ». C'était à partir de 2012, je crois qu'on a appelé ça « angry summer », des étés en colère, pourrait-on dire. Et maintenant, on dit des « angriest summer », encore plus en colère. C'est comme ça qu'on a qualifié ce qui se passe ces temps-ci. J'ai vu dans la presse anglo-saxonne ce qu'on a qualifié, ce qui se passait en Australie aujourd'hui, pendant l'été austral.
Pendant l'été austral, ben, il y a effectivement une augmentation sensible des températures. Apparemment, l'Australie serait le pays ou le continent finalement le plus vulnérable au changement climatique de tous les autres parties du monde. Et donc cette vulnérabilité, d'une certaine façon, revient un peu comme un boomerang, si on peut utiliser cette métaphore locale. Donc c'est un peu, voilà, il y a un effet boomerang. Là, effectivement, je pense que Scott Morrison a été élu il n'y a pas si longtemps.
Donc c'est le Premier
contre
ministre.
Les travaillistes qui mettaient la question climatique au centre de leur programme. Donc ce que dit aussi ces gens qui sont angry face à l'inaction climatique de leurs gouvernants, c'est qu'il faudrait peut-être voter autrement aussi. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas Scott Morrison qui peut aller éteindre les incendies aujourd'hui avec ses petites mains. C'est un peu tard.
C'est ce qu'il a dit,
d'ailleurs. Oui, mais en même temps, il y a dans la situation actuelle une conscience à prendre, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, dans une certaine mesure, en Russie, partout, que l'électeur a un rôle à jouer.
Est-ce que d'ailleurs c'est un hasard, selon vous qui avez étudié les méga-feux un peu partout sur la planète, que ça soit dans trois pays climato-sceptiques ou dirigés par des climato-sceptiques, que ce soit déclenché les méga-feux de ces derniers temps, c'est-à-dire la Californie pour Donald Trump, Bolsonaro et l'Amazonie, et maintenant l'Australie. Est-ce que c'est un hasard? Ça peut être tout à fait un hasard, mais ça pourrait aussi dire que les politiques qui sont mises en œuvre ne sont pas des politiques qui tentent de combattre ce qui pourrait arriver avec ce réchauffement climatique, Joël Zask.
C'est vrai. Bon, par ailleurs, il y a quand même d'autres pays.
Bien sûr.
Voilà.
J'ai fait un choix, évidemment.
Oui,
donc, on va me dire que c'est orienté.
Ce sont des pays encore pires politiquement. Donc là, en l'occurrence, ils ne vont pas nous sauver. Ceci étant, oui, je pense qu'il y a peut-être pas une relation de cause à effet, mais en tout cas, il y a une convergence très, très claire entre le phénomène du méga-feu et une mauvaise politique. Et une mauvaise politique qui est parfaitement sensible au niveau de l'exécutif, mais qui est également sensible au niveau du comportement des gens dans leur vie sociale et des électeurs lorsqu'il s'agit d'aller glisser un bulletin de vote dans l'urne. Donc je crois qu'il y a effectivement à prendre conscience de responsabilité quant à de chacun quant à l'organisation d'une politique qui place les questions climatiques au centre de chacun de ses programmes et pas seulement au centre de sa politique environnementale.
Le 22 décembre dernier, le Premier ministre revenait de vacances qu'il avait interrompues à Hawaï et qui avait choqué l'opinion. Il s'était finalement rendu ce jour-là sur le front des incendies qui ravageaient depuis des semaines déjà l'Est australien. Il avait d'ailleurs reçu un mauvais accueil. Voici ce qu'il disait, ce Premier ministre Scott Morrison.
Je comprends que les gens aient été en colère de savoir que j'étais en vacances avec ma famille alors qu'eux étaient très inquiets. Ils savent que je ne vais pas aller sur place et tenir une lance à incendie. Je ne suis pas un pompier entraîné. Je ne suis pas non plus un expert comme ces personnes qui sont dans la pièce d'à côté et font un travail extraordinaire. Mais ça me réconforte de savoir que les Australiens veulent que je sois là. J'ai toujours reconnu le lien entre ces événements climatiques, ces feux à grande échelle et l'impact global du changement climatique. C'est un des multiples facteurs.
Qu'est-ce qu'il dit quand il dit qu'il a été, David Camerou, il a toujours reconnu le lien entre le changement climatique et ce qui se passe en Australie? Est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il réécrit ce qu'il pensait?
Le paradoxe est en 2007, l'Australie était en avance, ils ont mis en place une taxe carbone.
Mais à l'époque, c'était Peter Garrett qui était le ministre de l'Environnement.
Et il y avait un mouvement travailliste avec Kevin Rudd qui a mis l'Australie dans les accords de Kyoto. Et en fait, la question du changement climatique est très politisée en Australie. Même au sein du parti au pouvoir, le parti libéral, ils ont viré un ancien premier ministre, Malcolm Turnbull, parce que lui, il prenait au sérieux le changement climatique. Mm-hmm. Il y avait un report de 2008 qui avait prévu en 2020... il y aura le potentiel d'une catastrophe. Donc on savait, on ne peut pas le nier que c'était prévisible ce genre de méga feu. Mais effectivement, le lobby du charbon et des lobbies miniers est tellement fort, soutenu malheureusement par la presse Murdoch, la presse pernicieuse, qui a toujours minimisé les effets de changement climatique et qui va un peu dans les désinformations actuellement. Pour minimiser, on parle des actations, on attaque les verts. Mais en fait, il y a un clivage très net entre l'Australie, entre les villes où il y a une sensibilité environnementale et la campagne et les petites maisons. Et peut-être la seule chose positive qui va arriver après ces feux, c'est qu'on va, en fait, arrêter ce clivage et qu'il y a un sentiment que tout le monde est menacé.
Yann Robillot-Dupont, vous êtes toujours au téléphone avec nous depuis la Norvège. C'est vrai que, à un moment, vous expliquiez que si les autres pays de la planète faisaient aussi peu d'efforts que l'Australie ces temps-ci, eh bien, la planète se réchaufferait de 4 degrés d'ici 2100. Donc, on voit bien effectivement que ça n'est pas l'excellent élève, pourrait-on dire, de la classe internationale autour de ces questions-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire David Camerou, c'est-à-dire des grands feux comme ceux-ci peuvent, d'une certaine façon, servir d'électrochoc à une opinion publique qui n'était pas très tournée, pour une partie d'entre elles, donc vers la question du réchauffement climatique?
Alors c'est vrai que ça fait partie des grandes questions qui se posent à la fois en Australie de par les gens qui veulent plus d'action climatique et à la fois à l'international des alliés de l'Australie, on va dire aussi en Europe, de ceux qui espéreraient trouver un nouvel allié au milieu de tous les climato-sceptiques que vous avez décrit avant. Mais c'est pas certain que cette catastrophe puisse suffire. Il y a un petit peu des comparaisons à d'autres événements choquants qui ont pu marquer l'opinion en Australie et amener des changements par rapport à, comme par exemple la loi pour les armes qui avait été, sur le port d'armes qui avait été changée après une catastrophe. Mais c'est vrai que c'est pas certain que cette catastrophe puisse suffire. Là aussi où il y a une bonne nouvelle, c'est que même si le gouvernement fédéral est très peu ambitieux, il se passe des choses en Australie au niveau des États qui ont beaucoup plus...
Et des cités avec le Cities Power Partnership, je crois, c'est ça, plusieurs villes qui ont fait un accord, des gouvernements locaux qui ont fait des accords également pour pouvoir promouvoir un avenir énergétique durable, c'est cela, Yann Robillot-Dupont?
Exactement. Donc tous les États ont des objectifs d'émissions nulles à horizon de la moitié du siècle. Certains ont même légiféré ces objectifs. Donc il se passe des choses. Les villes, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'actions aussi de la part des gens, mais c'est vrai que là, le Premier ministre Scott Morrison a finalement cédé et accepté d'un peu de parler d'action, d'entreprendre plus d'actions sur le climat. avant de rediriger un petit peu ses dires. Alors au début, il a parlé de réduire les émissions davantage, mais sans réviser l'objectif climatique de l'Australie à 2030, sans parler de mécanismes de taxe carbone ou d'échange de carbone dont avait parlé David juste avant. Et puis finalement, il a redirigé son discours plus sur des mesures d'adaptation et de résilience. Donc toujours un peu ce discours de déni de l'urgence climatique et du besoin d'agir sur les émissions.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to save.
Voilà, beds are burning, évidemment. Que peut-on faire comment peut-on dormir si nos lits sont en train de brûler? Du groupe de rock australien, évidemment, Midnight Oil. On a beaucoup dansé dessus dans les années 80. On savait peut-être pas que son chanteur allait devenir justement ministre de l'environnement entre 2007 et 2010 du gouvernement travailliste d'Australie, Peter Garrett, donc, qui d'ailleurs a fait très récemment, c'était ce matin ou hier, dans Le Parisien, a donné une interview pour pouvoir critiquer justement le gouvernement australien en disant qu'effectivement il est en colère parce que le gouvernement savait ce qui est en train de se passer, David Cameron, et que justement il aurait dû faire quelque chose, ce qu'il n'a pas fait, ce gouvernement.
Oui, il n'est pas le seul à critiquer. Il y avait dans Time un article de l'ancien premier ministre Malcolm Turnbull, qui est du même parti de Scott Morrison, qui a parlé d'une presque une péché mortel, en fait, que c'est les idiots qui étaient au pouvoir, peut-être ils prennent sa revanche, mais effectivement, le discours de Scott Morrison, c'est l'Australie, c'est 1,3% des émissions mondiales. Donc, on peut rien faire. Hein. C'est ça l'argument qu'il utilisait. Je vais pas sacrifier les emplois et l'économie parce qu'on produit qu'à 1,3%. Mais ça ne prend pas en compte tout le charbon et le gaz naturel qui est exporté, donc la pollution due à ça. Mais je crois que ce qui est en train de changer, c'est que l'Australie devrait être un leader mondial dans les énergies renouvelables. C'est ça qui m'a toujours mis en colère. Il y a tout ce qu'il faut, le soleil, le vent, l'océan. Et à cause de justement ce modèle économique, et c'est la fin de ce modèle économique. Justement, c'est la fin de ce modèle économique qui dépend des énergies fossiles.
Dans votre livre, Joël Zask, Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique, aux éditions du Premier Parallèle, vous rappelez qu'en 1995, c'est-à-dire 7 ans ou 8 ans après le titre de Midnight Oil, donc Beds Are Burning, on a créé en Australie une association, enfin un groupe qui s'appelle Caring for Country, donc prendre soin du pays, et que il y a pourtant dans ce pays-là justement une vision très particulière qui pourrait faire école dans le monde entier, ou qui a peut-être d'ailleurs des surgeons dans le reste du monde, de rapport de l'homme à la nature qui nous ferait réfléchir justement sur ce rapport d'exploitation de la nature par l'homme que les méga-feux sont là pour nous signaler.
Oui, en effet, je crois que les aborigènes disposent d'un très grand nombre de termes pour désigner les différents régimes du feu et les différents arts de le pratiquer. Et la position aborigène, d'ailleurs, qui relève du caring for country, mais aussi de ce qu'ils appellent le cleaning country, le ménage du pays, en quelque sorte, l'aménagement du paysage, est vraiment très, très instructive pour redécouvrir quelle est la bonne attitude, la bonne place de l'humain dans la nature, en quelque
et
sorte.
Et la bonne place du feu, fait. Parce que ça veut et pas dire qu'il ne faut pas feu. Que le voilà. feu disparaisse de la nature. Au contraire, il a un rôle.
Les aborigènes, ils ont une phrase. Ils disent, nous ne possédons pas le pays. Non. C'est le pays qui nous possède. Et je crois que tout est là, en fait.
Oui, Joliza. C'est vrai. En tout cas, maintenant, on va voir des déclinaisons de ce genre d'attitude que j'ai envie d'appeler une interaction, en fait. Sans hiérarchie, sans antécédents, sans cause à effet. C'est juste une coopération, une forme de partenariat entre les hommes et la nature.
Ce que vous appelez aussi les feux réorganisateurs, par exemple.
Oui, alors le feu dirigé, l'éco-buage, les feux de faible intensité, les feux qu'on allume même dans les Landes britanniques, en hiver, etc., sont des feux d'entretien, mais qui participent d'une économie générale de l'interaction avec la nature. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais il est vrai que le feu dirigé, enfin en Australie, ces feux dirigés ou cet écobuage a été l'un des moyens privilégiés de gérer la biodiversité, d'éviter les grands feux, de favoriser la pousse des plantes dont se nourrissent telle espèce d'animal, de favoriser l'apparition de la patate de brousse et de toutes sortes de légumes dont les aborigènes se nourrissent. Et du coup, effectivement, semble-t-il, là où il y a le moins d'aborigènes, là où la culture aborigène a été la plus détruite, c'est là où ça bolle le plus en même temps. Et cette corrélation, elle est très importante. Mais c'est vrai aussi dans les Landes, c'est vrai également en Angleterre, c'est vrai en Sibérie, c'est vrai bien sûr en Amazonie, c'est vrai en Indonésie. C'est-à-dire que partout où on détruit les cultures locales, alors la forêt brûle. C'est-à-dire que l'écocide est un ethnocide. Enfin, il y a quand même cette relation qui est très très forte aujourd'hui. Et c'est ça que révèlent aussi ces méga-feux.
Parce que
il
faut
ce qu'on
dire...
fait à la nature, on le fait aux gens aussi. C'est parce qu'on a fait ça aux gens que la nature brûle aujourd'hui.
Vous dites bien, donc, quand la forêt brûle, Joël Zask, que par exemple, certaines espèces de kangourous et de wallabies en Australie aiment bien les forêts qui ont brûlé, mais à condition qu'elles n'aient pas été, elles n'aient pas subi un méga-feu, justement, parce que tout est détruit.
Mais
elles aiment bien les feux de surface parce que elles se nourrissent d'une végétation qui est plus tendre, qui est plus juteuse, et ces espèces de kangourous et de wallabies aiment beaucoup
ça les attire, mais c'est comme les Indiens américains qui, dans les grandes plaines, apparemment les grandes plaines seraient aussi un paysage du feu, et mettaient le feu pour faire pousser des herbes que mangeaient les bisons, qui étaient des animaux semi-sauvages, semi-domestiques de ce point de vue. Donc c'est pas spécifique à l'Australie, mais c'est vrai qu'en Australie, à cause du réchauffement climatique et à cause aussi de l'ancienneté de ces traditions qui remontent à 60 000 ans en quelque sorte, d'après les indications qu'on peut avoir, les interactions entre les animaux, les plantes et les humains sont extrêmement fortes. Par exemple, les koalas, on les voit brûler aujourd'hui, mais parce qu'ils se réfugient dans le houppier, dans le sommet des grands arbres, qui d'habitude ne volent pas. Mmh. Eux sont programmés en quelque sorte pour trouver dans le sommet des arbres un refuge. Mais là, c'est plus le cas. Donc voilà, il faudrait réinitialiser tout ça d'une certaine façon, ou alors revenir aux bonnes pratiques.
Oui, ce que dit Joël Zask, Yann Robieux-Dupont, c'est que ces grands feux, ces méga-feux sont révélateurs ou sont des avertisseurs. Et de quoi ça nous avertit d'une certaine façon pour vous, Yann Robieux-Dupont, ces grands incendies en Australie?
Alors c'est vrai que pour compléter peut-être avec le point de vue d'un Européen qui a débarqué là-bas, parce que j'ai vécu donc 5 ans en Australie, c'est vraiment impressionnant à quel point quand on apprend comment fonctionne la forêt, à quel point elle est dirigée par le feu, elle est façonnée par le feu, et les aborigènes, eux, quand ils vivaient dedans, il fallait qu'ils puissent courir au travers des forêts, et donc ils la géraient complètement. Mais même les animaux eux-mêmes, il y a une espèce d'oiseau, de rapace, qui transporte des bouts de charbon incandescent pour faire des départs de feu, pour pouvoir attraper ses proies qui fuient la fumée. Donc on est vraiment dans un endroit qui est très spécial, et c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ce qu'ont dit les deux autres invités avant. Pour ce qui est de l'ampleur du feu, je pense que effectivement, pour les populations européennes qui ont pas ce recul, qui ont pas 60 000 ans d'histoire climatique dans leur tradition, ça commence à être effectivement des avertissements de plus en plus clairs de ce à quoi peut ressembler le futur. Si ces feux sont exceptionnels, c'est aussi parce qu'il y a une sécheresse exceptionnelle, une année d'une température exceptionnelle. Le mois de décembre a été beaucoup plus chaud que les mois de décembre de manière...
41,8 degrés, je crois, Celsius, en moyenne, le 18 décembre, je crois, quelque chose comme ça sur l'ensemble du territoire australien.
Voilà, en moyenne sur un territoire qui fait plus grand, qui est plus grand que l'Europe. Hein. Et donc du coup, cet enchaînement de conditions qui donne un aperçu d'à quel point au final on reste quand même vulnérable à la nature et tout ce qu'il était possible un petit peu d'oublier des catastrophes qui disparaissent un peu dans la mémoire deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus présentes. Et là, je pense que le fait que c'est pas seulement les maisons qui ont brûlé et les quelques morts qu'il y a eu, c'est dramatique, mais au-delà de ça, la population, peut-être dans son ensemble, a été touchée avec les grandes villes qui seront retrouvées sous les feux, avec toutes ces images d'animaux brûlés. Et comme on le disait en début d'émission, les Australiens sont sensibles à la nature, comme beaucoup. Et donc là, je pense que effectivement, ça a été un grand choc. Et puis l'été n'est pas fini. Hein. C'est un feuilleton qui a duré longtemps. Le fait de voir le Premier ministre revenir, changer de discours, alors qu'il avait essayé de nier complètement le lien au début, je pense que ça peut marquer aussi des populations, une partie de la population à laquelle référait David avant, qui est pas spécialement sensible aux thèses du changement climatique à la base. Hein. Il y a beaucoup de climato-sceptiques en Australie. Et effectivement, je pense que ce genre de catastrophe peut être ressenti de manière peut-être un peu plus, à remettre un peu plus en question la vision des Australiens.
Joël Zas, ce que vous dites très bien dans votre livre « Quand la forêt brûle », c'est le rêve de la maîtrise qui disparaît dans ces méga-feux, c'est-à-dire la maîtrise du territoire par les hommes.
Les formules.
Le rêve de la maîtrise territoriale en particulier. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on sait faire, on va faire des forêts pour faire du papier, pour faire du bois en Suède, et puis, bam, ça prend. Et ça prend partout, d'une certaine façon. Et on ne peut plus maîtriser. Et ce rêve de la maîtrise, qui est quand même un rêve prométhéen de l'homme, il est mis à mal par ces méga-feux.
Et oui, enfin, ce que tout le monde dit aujourd'hui, mais ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a deux ans encore, c'est que ces feux sont véritablement incontrôlables. Et c'est pour ça qu'on les appelle des méga-feux. C'est peut-être le facteur numéro un, en fait. C'est ça qui nous a fait prendre conscience qu'on a vraiment changé de régime, qu'on n'est plus du tout dans le domaine des feux naturels, des feux saisonniers, des feux dirigés, des feux auxquels on était habitués dans le passé. Caractère incontrôlable est tout à fait extraordinaire et très, très violent dans l'expérience qu'on en a.
Deux chiffres simplement. Au mois d'octobre, novembre, on était à 10 000 feux dans la Nouvelle-Galles du Sud, comme d'habitude, pendant la saison. Radicalement, le mois de décembre, on est monté à 90 000.
Ouais.
Donc, ça a littéralement explosé, en fait, le nombre de feux dans un temps très, très court, en fait.
C'est sûr, c'est le nombre de feux, mais c'est aussi leur intensité.
Oui, voilà.
Un bombardier normalement constitué peut éteindre un feu qui progresse, dont la température est de 10 000 kilowatts par mètre. En Australie, on est à 80 000. Donc, ce qui veut dire que, voilà, que on aura beau...
Dans certains feux, ça a été un terrain de football par seconde.
Oui, alors il y a la vitesse, il y a les vents, il y a le fait qu'ils génèrent leur propre climat. On ne parle même pas des effets des feux, là encore, qui sont eux-mêmes incontrôlables. Bon, cette fumée qui enveloppe l'univers, enfin, je veux dire la Terre, c'est déjà en soi une image terrible. Mais par ailleurs, il y a des dépôts de cendres, il y a énormément de conséquences. Et puis, une contribution des feux aussi au réchauffement climatique par l'émission de gaz à effet de serre, de carbone, de méthane, enfin... C'est assez terrible, mais clairement, c'est vrai que ces feux échappent à toute maîtrise humaine. Et aujourd'hui, c'est la pluie qui éventuellement amenuise le risque du feu en Australie. Ce ne sont pas les efforts des pompiers. Ce que les pompiers peuvent faire finalement, c'est plus aider les gens à fuir et les diriger, les avertir, etc., que éteindre les feux. Mais éteindre les feux, cette guerre contre le feu, ce feu qu'on se représente comme un ennemi, qu'on va abattre, et cette responsabilisation un peu surréaliste des pompiers qui se sentent en échec quand ils n'ont pas réussi à sauver les vies, à éteindre les feux. Tout ça doit être vraiment complètement repris. La guerre contre le feu est perdue d'avance. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà,
David Cambrousse, ce qu'on entend quand on lit les articles, par exemple Le Monde vient de faire toute la journée autour de ce qui se passe en Australie avec un bon article de Charlotte Chabas sur les forêts d'Australie, pourraient-elles se régénérer après ces immenses incendies, c'est qu'elle dit, Charlotte Chabas et les gens qu'elle rencontre, c'est David Fallen, professeur du département vétérinaire de l'université de Sydney, qui dit, plus il y aura de feux, plus il y a de feu, plus il y a d'eucalyptus, par exemple. Ça veut dire que l'eucalyptus repousse, il y a donc moins de variétés, il y a moins de variétés dans le territoire, et donc d'une certaine façon, on appauvrit ce territoire de sa diversité.
On approuve, en fait, déjà, pour les insectes, on parle des koalas parce que ça, c'est assez photogénique.
C'est nounours.
Et les kangourous. Mais en fait, il y a des espèces, maintenant, on parle d'un milliard d'animaux qui sont morts, qui ont disparu. En fait, l'Australie, c'est parmi les pays avec une plus grande diversité. Donc, ça, c'est
avec fini. 80% en plus de mammifères qui sont endémiques, qui sont oui. propres à l'Australie. Donc, c'est effectivement un trésor pour l'humanité tout entière aussi. Ça n'est pas simplement pour l'Australie.
Oui, les effets collatéraux, par exemple, sur les animaux qu'on a importés, comme les chameaux ou les chats, ils vont prendre la place. Ils sont déjà menaçants, mais ils vont prendre la place aussi des animaux indigènes du pays. Donc, il y aura des conséquences. Mais effectivement, cette idée qu'on n'a plus de maîtrise, ça me pensait au slogan de Brexit, hein, reprendre la maîtrise. Et tout le, en fait, c'est un slogan politique très, très fort. Mais voilà, on n'a plus le contrôle. Et donc, ça, c'est plus que politique, c'est quelque chose de beaucoup plus fort.
C'est ça. Et c'est d'autant plus, en fait, ce qui apparaît, c'est que justement, ce rêve de maîtrise est la cause, hein, le responsable, en quelque sorte, de ces méga-feux. Et donc, la tentative de les maîtriser au sein d'une vision un peu positive ou adaptatrice de l'anthropocène, là, pour le coup, se révèle vraiment un écran de fumée, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment un écran de fumée.
Un dernier mot, Yann Robillot-Dupont, justement, sur les conséquences internationales que pourrait avoir dans la vision du climat, dans la vision du réchauffement climatique, ces méga-feux australiens, pas simplement sur le territoire australien, mais un peu partout. Yann Robillot-Dupont, vous m'entendez? Ah, je crois que Yann Robillot-Dupont nous a quittés. Il était du côté de la Norvège et donc il était au téléphone avec nous. Moi, j'ai noté, par exemple, Joël Zask, qu'un de vos collègues philosophes, Michael Fossel, ce matin, faisait sa chronique dans Libération et revenait sur Héraclite. Il disait « Le monde est comparable à un feu éternellement vivant », en citant Héraclite, et expliquant que peut-être Héraclite avait vu dans ce feu qui s'allume et s'éteint selon la loi, la naissance de la raison. La raison serait-elle née du besoin d'éteindre les incendies, écrivait Michael Fossel. Vous êtes d'accord avec cette idée que le feu peut nous dire cela aussi, peut nous expliquer ce qu'était le réveil de la raison ou au contraire l'extinction de cette même raison?
Alors, de fait, le feu joue un rôle absolument primordial dans le développement de l'intelligence et même de la constitution humaine. Ça, on le sait depuis bien longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'éteindre les feux, il s'agit de les entretenir, il s'agit de les apprivoiser, en quelque sorte. C'est ce que dit Bachelard aussi.
De vivre
avec les feux. Mais effectivement, vivre avec les feux, c'est comme vivre avec la nature, vivre et en même temps ne pas être le maître. Ni du feu, ni de la nature, mais un peu l'élève également. Et je crois que cette dimension est très très forte dans la culture aborigène que j'aimerais beaucoup découvrir plus à fond parce que elle dit quelque chose d'absolument fondamental justement sur le rapport humble qu'il y a à manipuler quelque chose qui peut être aussi destructeur et terrible que le feu. Et justement, il y a un usage modeste du feu qui peut nous servir d'école pour revisiter, repenser notre relation avec la nature.
Un dernier mot sur ce point, David Cambrou.
Je crois que le fait que les feux touchent tout le monde littéralement, parce qu'on parle des victimes, mais on estime que les grandes villes, on aura des milliers de gens avec des problèmes respiratoires, et on saura les résultats dans 10 ans, selon les médecins. Donc on touche la santé de l'homme et on touche son âme, et c'est peut-être ça qui va révéler, je l'espère, une prise de conscience.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Yann Robillot-Dupont, d'être venu. Je rappelle que vous êtes chercheur climat à l'IDRI, auteur d'une thèse sur la justice climatique. À vous, David Cambrou, donc politologue et chercheur honoraire aux séries Sciences Po, ainsi qu'à vous, Joël Zask. Et je conseille votre livre « Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique ». On peut aussi réécouter l'émission des matins, ce matin qui se tenait à Notre-Dame-les-Landes et qui n'était pas aussi éloignée que cela de notre sujet du jour. Et puis on aura tout intérêt aussi à lire Papier, la revue de France Culture, qui s'intéresse pour ce dernier numéro, numéro 31, à la fin du monde, non merci. La question de la collapsologie est au cœur de ce numéro et peut-être ceux qui poussent des cris d'alarme comme Jonathan Franzen qui est dans ce numéro, mais également tous ceux aussi qui considèrent que peut-être la fin du monde n'est pas pour demain. C'est donc le dernier numéro de Papier. Et dernier conseil, si vous voulez vous renseigner un peu sur ce qui se passe au niveau des grèves dans l'université, dans les centres de recherche, etc., vous pouvez lire le très bon papier sur le site de France Culture de Chloé Leprince, faire tache d'huile et œuvres utiles chez les chercheurs, 10 revues de sciences humaines. Les sciences humaines sont importantes ici au temps du débat, qui sont actuellement en grève illimitée. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Rémi Baye, Fanny Richer, Louise André, à la technique Thibaut Nassimben, à la vidéo Morgane Danan et Ludovic Auger, et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet.